Bon, merci beaucoup. Et c'est tout à fait aussi à la fois ému par les événements récents qui, évidemment, nous interpellent, en particulier sur les questions de genre. Donc, j'avais envie de rendre hommage à toutes ces victimes qui sont encore voilà, très présentes dans nos cœurs, dans nos esprits. Et puis, j'avais envie aussi, tout simplement, de dire à quel point ma participation au GSRL avait nourri profondément ma réflexion et que j'en suis aussi très, très, très heureuse de pouvoir participer à ces 20 ans. Et étant spécialiste au départ des questions autour des féminismes, des droits des femmes et du genre, j'ai reformuler mes questionnements beaucoup à partir de ces grilles de lecture sur laïcité, sécularisation dont nous avons parlé ce matin et j'espère pouvoir y contribuer à mon tour à travers ces analyses de genre. Donc bien sûr en 15 minutes je ne vais pas faire le tour de ce vaste questionnement, mais je voudrais vous ouvrir quelques pistes de réflexion. D'abord un mot sur ce concept de genre qui a été élaboré d'abord par des médecins puis au sein de la pensée féministe pour distinguer sexe biologique et sexe social. Puis au sein du monde académique et à travers une somme de travaux pluridisciplinaires tout à fait considérables, cette articulation s'est complexifiée et le sexe biologique n'est plus considéré comme une donnée hors des interactions sociales. Donc le terme de genre peut recouvrir finalement l'idée d'un système de genre ou d'un régime de genre. Et c'est intéressant d'avoir cette comparaison entre différents régimes de laïcité et à quel régime de genre on correspond, ou on peut se poser la question dans les deux sens. Donc différents types de régimes de genre interrogent la façon dont les sociétés pensent, symbolisent, organisent la différenciation des sexes et les attributs du masculin et du féminin qui s'y rapportent. La façon dont ces sociétés établissent des normes qui régulent des rôles, des fonctions, des relations sociales entre les sexes, dont les relations sexuelles et les sexualités. Ces normes sont religieuses ou profanes et traversent tous les domaines. Donc c'est par cette transversalité que les questions de genre interpellent les sciences sociales, des religions et des laïcités. Par rapport aux premiers travaux qui, en sciences sociales, prenaient les femmes comme objet, et j'aimerais rappeler à quel point ça reste indispensable pour nombre de sujets, nous avons besoin de données de base, de banques de données, c'est encore un champ à constituer de façon très, très large, mais par rapport à ces premiers travaux, la grille d'analyse s'est enrichie pour être mise en perspective avec un questionnement sur les masculinités, sur les sexualités, sur le biopolitique et sur le genre comme forme de pouvoir, et notamment de pouvoir du masculin. À propos des laïcités, plusieurs interrogations s'imposent, comme à d'autres formes politiques, donc celle de la valence différentielle des sexes, pour reprendre l'expression de Françoise Héritier, de la hiérarchisation, de la place faite aux femmes ou aux droits des femmes, mais aussi des minorités sexuelles, à l'égalité, aux libertés, selon les contextes politiques, sociaux, culturels, religieux considérés, ces critères seront à mettre en écho avec ceux concernant les classes, les races, les catégories d'âge et le degré de pluralisme politique et religieux. C'est alors la laïcité moins comme une règle juridique que comme le résultat d'un processus de laïcisation. Donc par rapport au questionnement de genre, je crois que c'est moins la loi de 1905, bien qu'il y ait énormément de choses bien sûr à y trouver ou à analyser, que le processus de laïcisation entamé depuis la Révolution française, qui va intéresser ou interpeller ces analyses de genre, pour essayer de comprendre le résultat d'interactions entre le social, le politique, le religieux, et des critères qui vont être constamment redéfinis selon les contextes et aujourd'hui des contextes globalisés. L'intérêt de ce questionnement, c'est de faire apparaître l'historicité de ce processus et l'importance et l'analyse et les typologies des rapports de force qui président à ce processus. Donc la question va être, ou les questions vont être, avec quelle idéologie de genre et avec quel projet de réorganisation des rapports de genre les laïcisations se sont-elles effectuées? Selon quel héritage philosophique et politique cet héritage étant renégocié, quel mode d'action et quels sont les différents courants plus ou moins égalitaires qui s'opposent, dans quel rapport de force, je l'ai déjà dit, avec quelles conséquences. Et là vont jouer un rôle important les féminismes laïques ou religieux, ou laïques et religieux, à l'intérieur de ces rapports de force. Les féminismes au sens large étant les forces qui produisent la proposition égalitaire et qui vont interpeller les mondes politiques et religieux avec ces propositions égalitaires. Donc on interrogera les présupposés comme les effets de ces idéologies et de ces politiques laïques, celles-ci étant induites ou produites, implicites ou explicites, et étant le fruit d'imbrications entre sécularisation, y compris interne, et laïcisation. J'ai plusieurs fois insisté sur l'importance des féminismes religieux et sur l'importance de cette sécularisation interne qui fait de l'acteur religieux un interlocuteur dans ce processus de laïcisation, y compris pour la rendre plus égalitaire, même si, par ailleurs, d'autres acteurs religieux vont s'y opposer. Donc d'imbrication entre sécularisation et laïcisation, et là je reprends les distinctions aussi travaillées par le GSRL, donc j'y reviens pas. Ces laïcités se pensent aussi elles-mêmes à travers une certaine grammaire du masculin et du féminin qui peut nous permettre de comprendre ou de cerner ces idéologies de genre. Par exemple, l'importance du terme de viril dans tout le XIXe siècle, qui est toujours mis en avant pour exclure des femmes de certaines fonctions, considère que cette fonction est virile, que cette laïcité doit être virile et que par conséquent les femmes y apportent un élément qui pourrait déviriliser cette laïcité. C'est une des justifications de l'exclusion des femmes. Aujourd'hui, c'est toute la question autour des interprétations de l'égalité et jusqu'où on peut pousser ou réduire l'égalité. Sur ces sujets, même dans des contextes de laïcisation conflictuelle, on ne peut se contenter, j'ai déjà souligné, d'opposer monde confessionnel et monde non confessionnel. Et c'est un des intérêts de cette question du genre, c'est qu'on va essayer au contraire de montrer des interactions complexes qui vont différer selon les sujets, mais où on remélange les cartes des différents acteurs, des différents locuteurs et des différents rapports de force. Les consensus s'élaborent différemment, par exemple sur l'éducation ou les droits politiques des femmes au XIXe siècle, ou encore sur les droits reproductifs, et les courants féministes étant eux-mêmes divisés politiquement ou religieusement et interfèrent dans l'opposition Église et l'État, s'opposant souvent aux deux interlocuteurs. Donc il me semble intéressant de réfléchir en termes de co-construction et la notion de pacte laïque qui avait été explorée et mise en avant par Jean Bobéro m'a toujours paru très intéressante pour essayer de rendre compte d'un pacte de genre qui sous-tend ce pacte laïque à un moment donné, dans un contexte donné. Notamment parce que c'est autour d'un pacte de genre que se fait un consensus par défaut, c'est-à-dire on accorde ou on met en place une laïcité en se mettant d'accord sur un type d'exclusion des femmes, et c'est ce consensus exclusif qui permet le consensus par ailleurs sur les questions de laïcité. Du moins, il y a ce type de processus qu'on peut mettre en avant et qui est très intéressant pour y comprendre l'importance du genre comme pacte, ce qui sous-tend les pactes laïques. Pour cerner ces phénomènes de co-construction, ce sont les controverses qui nous semblent particulièrement révélatrices. Celles notamment autour des droits des femmes ou des minorités sexuelles, ou autour de toutes les questions des droits des femmes au XIXe siècle, celles bien sûr autour du foulard islamique ou encore du mariage du même sexe récemment, de l'homoparentalité. À partir de ces controverses peuvent s'analyser des affrontements, l'affrontement entre différentes idéologies de genre, et qui se pensent ou sont analysées en référence avec une certaine idée des rapports hommes-femmes, de l'émancipation des femmes, de l'égalité des sexes. Et c'est ce qui me semble possible, donc méthodologiquement, pour essayer de comprendre comment la laïcisation à la fois génère et à la fois révèle des idéologies de genre. C'est à travers ces controverses que peuvent finalement s'exprimer la complexité de ces idéologies. Donc on cherchera à ce moment-là à analyser autant le processus que le point d'équilibre, ce fameux pacte, trouvé à travers les lois, parce que cette étude autour de la laïcisation insistera davantage sur l'aspect des lois et de la sociologie juridique des lois, pour comprendre ces rapports de force, ces alliances, avec ce partage... ou cette analyse de la sécularisation comme étant davantage un processus à très long terme, culturel et social, et moins directement lié aux politiques et aux juridiques. Donc, soit ces lois sont directement en lien avec le religieux, comme c'est le cas du foulard, soit l'opposition religieuse explicite à une proposition politique va rendre, c'est le cas par exemple du mariage pour les personnes de même sexe, cette opposition plus explicite va rendre visible une dynamique laïcisatrice, et c'est en tout cas une proposition que j'aimerais explorer, de le prendre comme une dynamique laïcisatrice et ou sécularisatrice, qui nous permet de tester ce degré de sécularisation dont parlait notamment Jean-Paul Willem, à travers des représentations et à travers les termes du débat, ceci même si le terme de laïcité ou de laïcisation n'est pas forcément prononcé dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a des laïcités explicites autour du débat sur le foulard, et puis il y a des laïcisations moins explicites autour du débat sur les couples de même sexe, et qui pourtant rentrent dans notre appareil d'analyse pour essayer de mesurer ou de comprendre ces mécanismes de laïcisation et de sécularisation. À propos donc de la France du 19e et du 20e siècle, on a repéré plusieurs rouages qui semblent pouvoir s'étendre à de nombreux contextes de catholicité, et c'est très souvent en écho aussi à d'autres contextes catholiques ou à domination catholique, que ces types de rouages sont assez similaires et pourraient se prêter facilement à la comparaison. Mais on devra bien sûr distinguer des régimes d'inégalité de genre jusqu'à l'acceptation ou l'inscription de l'égalité, en tout cas de principe, dans la Constitution française en 1946, et puis des régimes d'égalité formelle où la question sera sur comment appliquer ce principe, et la controverse sera sur comment appliquer ce principe d'égalité formelle. Peut-être quelques éléments sur ces controverses, sur quoi portent-elles et comment on peut faire l'histoire et l'analyse de ces formes de laïcisation du point de vue du genre. Dans les premières grandes controverses, il s'agit bien d'une laïcisation qui va s'intéresser aux femmes par défaut et non pas comme individus libres, autonomes et non pas par une idée d'égalité, c'est à travers des failles égalitaires où c'est une laïcisation égalitaire par défaut. Et le présupposé d'une égalité dans la différence va donner à cette idéologie de genre un poids particulier dans la seconde phase de sécularisation de la laïcité, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Willem, c'est-à-dire que ces présupposés d'égalité dans la différence, ces présupposés de conception naturaliste des moindres capacités féminines ou de l'importance de leur physiologie ou de l'importance de leur fonction reproductrice dans la société et auxquels on les assigne. Par ailleurs, la peur du fantasme autour du mélange des sexes et de la sexualité sont très prégnantes dans la première phase des régimes d'inégalité de genre, mais finalement on les retrouve parce que c'était les présupposés. Cette égalité a été acquise avec ces présupposés, donc ces présupposés vont à nouveau être retravailler dans une phase autour de l'égalité formelle et l'extension de cette égalité formelle. Donc des effets de concurrence peuvent jouer, c'est ce qui me paraît intéressant dans l'analyse précise de ces controverses ou de ces processus d'acquisition de droits, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas non plus que de grands ensembles idéologiques qui s'opposent, il y a toute une série de négociations politiques, de concurrence entre des mondes clivés, quand c'est par exemple la concurrence entre éducation catholique et éducation laïque. Et là, le processus égalitaire en faveur donc d'une plus grande inclusion des femmes dans l'éducation se fait avec des effets de concurrence, aussi bien parce que les catholiques, par exemple, au XIXe siècle, vont proposer de préparer les jeunes filles au baccalauréat, que l'éducation laïque reprend le défi et va finalement être obligée d'accompagner le mouvement. Et ces effets de concurrence, là, nous mettent en avant des éléments importants de ces processus. Une question aussi sur cette matrice commune. Finalement, on pourrait, si on travaille sur à trois termes, religion ou église, État et proposition égalitaire, on a une matrice commune patriarcale aussi bien à la pensée politique qu'à la pensée religieuse, ce qui nous oblige à ne pas être dans la polarisation politique et religion et qui donc amène quelque chose d'intéressant à la réflexion. Donc je vais aller un peu plus vite sur cette laïcisation au carré ou cette sécularisation de la laïcisation autour de notamment de la polémique du mariage des personnes de même sexe, mais on retrouve bien une véritable controverse autour de l'idée de nature ou de l'idée de la vie et une bataille conceptuelle qui nous fait poser des questions sur justement ces processus de laïcisation en cours, sur l'importance d'une laïcité de combat par rapport à l'acquisition de liberté. C'est-à-dire que là, on n'est plus seulement dans une laïcité de reconnaissance, mais on est dans d'autres formes de controverses qui renvoient davantage à des laïcités de combat. Et à l'importance aussi d'une forme de sécularisation de la pensée. Et j'avais fait une proposition d'analyser l'importance du concept de genre comme lui-même laïcisateur par rapport à la pensée de la différenciation des sexes. Donc, cette forme de laïcité, à la fois laïcité, laïcisation libérale, à la fois qui met en jeu aussi des laïcisations de combat, on est face à l'islam sur un tout autre versant des usages de la laïcité et qui vont être marqués là par les impensés d'un passé colonial douloureux, par des clivages sociaux de l'immigration et des demandes de reconnaissance qui vont brouiller les cartes. Et cette fois-ci, la controverse divise encore plus sérieusement les féminismes ou les mouvements qui s'intéressent à ces questions et qui vont donc nous donner une géographie de la controverse tout à fait différente, parce qu'on aura vraiment un clivage qui sera très très fort au sein même des féminismes, ce qui est moins le cas dans les questions qui travaillaient le 19e siècle. Donc la question du foulard islamique, c'est comment traduire en termes laïques, enfin en tout cas tel que la controverse s'est montrée, le sens du port de ce signe religieux, et est-ce qu'il faut tenir compte des définitions des individus qui le portent ou au contraire tenir compte d'une interprétation autour d'un refus d'un signe religieux dans l'espace scolaire ou l'espace public. On relèvera le surinvestissement sur des figures féminines qui nous font poser des questions sur le rapport de la laïcisation aux femmes et la suspicion de la religiosité féminine et l'importance de cet héritage autour de cette méfiance laïque. Et on voudrait relever donc en conclusion que le genre nous met en face donc de différents types de laïcisation, de différents types de concepts de la laïcité et de fonctionnement de cette laïcisation, plus libérale d'un côté, plus intolérante et restrictive de l'autre, mais qu'on a d'un côté une laïcisation libérale ou une laïcité libérale qui ne se pense guère en ces termes, et qu'on a une laïcité qui, en revanche, restrictive, qui, elle, s'affirme beaucoup plus fortement comme une pensée de la laïcité, et qu'on relèvera peut-être un déficit de la pensée d'une laïcisation libérale en termes de genre, et en termes, justement, de libération. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose là à mettre davantage en valeur. Et puis, ces questions autour de ces formes de sécularisation, laïcisation, c'est aussi pour les études de genre une véritable, sollicitation pour davantage penser les modalités d'une sécularisation de la pensée en termes des rapports hommes-femmes et des sexualités en termes de genre. Merci.